marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Nous entendons dès à présent notre triomphant avenir marcher à grands pas dans l'histoire. Oui, cela va commencer.
L'Arc de Triomphe.
Monceau de pierre sur un monceau de gloire. Ce monument, nous dit Michel Gallet dans le Dictionnaire de Paris, qui, dans les occasions solennelles, s'enveloppe d'un immense voile tricolore, demeure le témoin majestueux de nos destinées nationales.
Le 11 novembre, autour de l'Arc de Triomphe de l'Étoile, les grandes ce monde, solennellement réunies, célébraient la paix. Trois semaines n'étaient pas passées qu'au même endroit se déroulaient de furieux combats de rue. Il est encore difficile de reconstituer la journée du 1er décembre. Le choix avait été fait par les pouvoirs publics de protéger la place de la Concorde et des Champs-Élysées, mais il fallait non seulement gérer les espaces, mais les flux de manifestants décidés à agir sans contrôle et sans parcours. Le risque était de ne pouvoir tenir aussi la place de l'Étoile. Le ministre de l'Intérieur s'est justifié hier en disant qu'il fallait mieux se retirer de temps à autre de l'Arc de Triomphe que de provoquer des morts. Hier encore, en comparution immédiate, la procureure disait à un gilet jaune qu'arriver à 8h50 au champ, avec tout un petit matériel de protection, c'était quand même le signe évident de la volonté d'en découdre. Mais les groupes nationalistes ultra étaient déjà arrivés avant, et ils étaient autrement armés. Pendant un bon moment, ils ont occupé, littéralement, le site du soldat inconnu. En revanche, plus tard dans la journée, ce furent des activistes d'extrême-gauche qui se révélèrent les plus forts. Le respect de la flamme ne les étouffe pas. Quelques-uns grimpèrent vers la terrasse du monument, dévastant tout sur leur passage. Le petit musée de l'Arc comporte heureusement peu d'œuvres. On est en droit de se demander ce qui se serait passé s'ils avaient eu le même accès au Louvre. Certains gilets jaunes se sont affairés pour protéger la flamme. Mais il semble qu'aux différentes phases de la journée, d'autres se soit associé aux activistes des deux bords, Primo émeutier rejoignant les émeutiers aguerris. C'est la faiblesse des mouvements incapables de se désigner des objectifs clairs et des leaders pour les porter. Les chefs leur viennent de l'extérieur. Et quel chef ? Samedi, tandis que le monument était dévasté, les ultras d'extrême gauche avaient roué de coups sur le pavage un ultra d'extrême droite.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Alors nous vous proposons une visite en archive de l'Arc de Triomphe et nous allons commencer alors même que personne n'y pense encore et que les Champs-Élysées ne sont évidemment pas bâtis et sont même carrément mal famés.
Colbert, pour Louis XIV, a voulu faire des Tuileries le centre du pouvoir. Bon, j'en monte un petit peu loin, mais je crois que c'est important. Vous savez que lorsque Louis XIV a décidé d'aller à Versailles, Colbert a tout fait pour contrebalancer cette attirance vers Versailles en concentrant le pouvoir aux Tuileries. C'est là que le nôtre a dessiné le jardin des Tuileries et qu'il a conçu cette perspective extraordinaire qui sont les Champs-Élysées. Et il fallait, on y pensait déjà, il fallait à cette perspective un point final, enfin un point d'orgue. Or, il y avait ici, c'était la colline de Chaillot. C'était une colline qui était assez élevée et qui bouchait un petit peu le paysage. On a dû araser la colline de 5 mètres, c'est important si vous voulez. On a donc arasé la colline et on a commencé d'ailleurs à tracer des voies en étoile, d'où le nom. C'était la colline de Chaillot, c'est devenu la colline de l'étoile. Et il n'y avait rien. Alors on a commencé à rêver d'y mettre quelque chose. Alors les projets les plus insensés ont été avancés. On a failli mettre un éléphant. Mais là, je parle bien avant l'Empire, n'est-ce pas ? Un éléphant. Entre parenthèses, moi, je trouve que c'est amusant parce qu'il y a la même chose à la Bastille. Quand il n'y avait plus la Bastille, on a voulu y mettre un éléphant qui existait en partie. Donc, on voulait mettre un éléphant. Après, on a pensé à un obélisque en marbre. Et sous la Révolution, on a ouvert un concours. On a ouvert un concours pour savoir ce qu'on pourrait y mettre. Et on voulait mettre une grande colonne qui aurait servi de cadran solaire. Ce qui est d'ailleurs assez extraordinaire. Moi, je trouve que poétiquement, c'est une belle image. Parce qu'au fond, cet Arc de Triomphe, c'est un peu l'axe d'un cadran solaire, puisque toutes ces voies rayonnantes autour, c'est une sorte de cadran solaire. En tout cas, c'est un cadran solaire symbolique.
C'était Jean-Jacques Lévesque. On va citer maintenant Olivier Besancenot. Sur France Inter, lundi matin, il s'étonnait de la présence, ce 2 décembre, à l'Arc, de membres du souvenir napoléonien. À l'entendre, ceux-ci venaient célébrer le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, et ça, c'était une atteinte à la République comparable au vandalisme de la veille. Faut-il tout de même rappeler qu'avant le 2 décembre 1851, il y eut le 2 décembre d'Austerlitz. Et c'est au retour de sa campagne victorieuse que Napoléon le Ier décida que Paris manquait de monuments. Il voulut dessiner clairement une perspective qui partirait de l'Arc de Triomphe du Carrousel aux Tuileries. Elle est évoquée ici par Manuel Bovis. Elle mènerait à un autre arc à l'étoile.
Napoléon Ier, qui dans les années 1807 décide, dans le même temps d'ailleurs que l'on fait construire le petit arc de triomphe du Carrousel, décide de faire un monument à la gloire de la Grande Armée. On préfère l'architecture plutôt que d'un temple, d'un arc de triomphe, ce qui est en effet peut-être plus militaire. La première idée de Napoléon Ier, c'est de construire ce monument, place de la Bastille, de manière symbolique, on s'en doute, bien que nous soyons quand même sous l'Empire. Donc ce monument, pour des raisons diverses et grâce, je puis dire, à l'un des ministres de Napoléon Ier, est situé sur ce qui est l'emplacement de l'ancienne barrière de l'Étoile. On dit que ce ministre, qui s'appelait Champagny, aurait suggéré à Napoléon Ier de faire cet arc de triomphe face à ses fenêtres, je vous rappelle qu'il habite aux Tuileries, et qu'ainsi il verrait l'ensemble de ce chantier et la fin. Il n'a pas vu la fin pour des raisons diverses, on le sait, puisqu'en 1815, plus de Napoléon, si je puis dire. Donc ces travaux commencent avec une idée assez intéressante d'un financement fait par un système de taxes sur les céréales, ce qui laisse toujours un peu rêveur, mais l'argent ne tombe pas du ciel, même quand on s'appelle Napoléon Ier. Et donc cet ensemble est mis en chantier par un architecte qui s'appelle Chalgrin, que l'on connaît, qui a construit Saint-Philippe-du-Roule, qui a aussi réalisé un ensemble d'éléments type Arc de Triomphe, justement, pour rapporter d'Italie tout ce que, bien sûr, le petit Bonaparte, qui n'est pas encore le grand Napoléon, comme disait Victor Hugo, va rapporter, autrement dit, tout ce qu'on a fauché un peu partout au cours des campagnes d'Italie. Il faut être assez clair là-dessus.
Bah, ça fait du bien quand la musique militaire s'arrête. Comme quoi, les taxes servent aux usages les plus divers, même à ceux qui paraissent somptuaires. On pourrait croire que la chute de l'Empire condamne l'Arc de Triomphe à l'inachèvement, où l'ont laissé ces deux architectes, Chalgrin déjà cité, et Groust, qui d'ailleurs était davantage concurrent qu'Camille. Mais l'Arc va toujours prouver que l'histoire de France peut être vue comme un continuum. Louis XVIII décide finalement de terminer l'Arc. Il en change seulement la dédicace. Il veut que soit célébrée la guerre qu'il a menée, lui, en Espagne, pour rétablir la dynastie des Bourbons. Charles X, son successeur, va même jusqu'à reprendre les plans de Chalgrin.
On travaillait à l'entablement quand survinrent les événements de 1830. Louis-Philippe prend le pouvoir. Son ministre Thiers dresse alors le programme des sculptures et donne aux victoires républicaines le pas sur les victoires de l'Empire. Étex, Rude, Cortot reçoivent les commandes de groupes allégoriques et les bas-reliefs sont confiés à Feuchère, Chaponnière, Lemaire, Guer Aîné et Pradier.
Il a quelle image, plus précisément pour vous, l'Arc de Triomphe ?
La qualité des sculptures, si vous allez sur les échafaudages, alors là justement, quand on va sur les échafaudages et qu'on voit les sculptures qui ont été faites par une vingtaine de sculpteurs, on prend des détails, parce qu'il faudra prendre des ensembles maintenant, avec une nacelle, mais maintenant que c'est nettoyé. Mais quand vous voyez le détail, que vous êtes au milieu des grenadiers avec leurs grosses moustaches, leurs gros nez, leurs boutons de guêtre, les pantalons de velours, les éperons, les fusils, tout ça, c'est une sculpture de très bonne vérité.
L'Arc de Triomphe est alors inauguré solennellement le 29 juillet 1836. Il a coûté très précisément 9 651 115 francs et 62 centimes. Il s'agit de francs or, naturellement.
Ça y est, la musique militaire avait repris. C'est inévitable quand on parle de l'Arc de Triomphe à la télévision ou à la radio. C'est une émission consacrée à ce monument à partir de nos archives. La dédicace à la Grande Armée est rétablie par Louis-Philippe, mais elle intègre aussi les armées de la Révolution, dans lesquelles, jeune, il a combattu. Il décide de faire figurer les noms des batailles sur les faces internes de la Grande Arche, en concordance avec les points cardinaux, tandis que ceux des généraux orneront les quatre faces internes de la Petite Arche. Une commission va référencer les noms de bataille, en ajouter sans cesse de supplémentaires, et la liste sera ouverte jusqu'en 1895, avant, hélas, que la Grande Guerre ne vienne renouveler le répertoire.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
L'Arc de Triomphe, sous l'arche duquel le 14 juillet 1919 passe le défilé de la victoire. La dédicace s'est élargie maintenant à l'armée française dans sa continuité. L'année suivante, la décision sera prise d'y transférer le soldat inconnu, comme va l'expliquer dans un instant Annette Becker.
Il est le seul être au monde à avoir sa tombe à Londres et à Paris, à Rome et à Moscou, en Amérique et en Belgique. Lui, le soldat anonyme, le mort sans visage, le combattant sans histoire que celle qui fit de lui un héros parmi d'autres, pris au hasard dans la masse des sacrifiés pour l'honneur, l'exemple ou la patrie.
Ce qui est sûr, c'est que l'idée est née simultanément dans plusieurs pays, dans les rangs de plusieurs belligérants. Et la raison évidente, c'est le nombre extraordinaire de morts et surtout le nombre extraordinaire de morts qu'on ne pouvait pas identifier. Pourquoi ? Parce que la violence de l'artillerie a fait que des centaines de milliers d'hommes ont été littéralement pulvérisés. On en trouve des traces, on trouve l'idée de soldats inconnus, de soldats perdus dans la littérature, dans la correspondance. Donc beaucoup de gens y ont pensé en même temps. Mais c'est une fois la guerre terminée, dans l'année 1918 et surtout 1919, que là on a organisé, je dirais, des formes de commémoration et que en même temps les Français et les Anglais ont décidé d'inhumer de façon solennelle un soldat inconnu. L'idée du soldat inconnu, je crois, c'est l'idée de la commémoration la plus démocratique. Cela a paru une telle évidence que une fois que on a mis en place en Angleterre et en France le culte du soldat inconnu, tous les anciens belligérants l'ont adopté. Et ils l'ont adopté parce que le soldat inconnu, c'est quelqu'un qui n'a plus d'identité personnelle, mais qui n'est finalement plus qu'une chose, qui est le mort de sa nation. Et donc il y a à la fois quelque chose de collectif, la nation pour laquelle ce mort est mort, pour laquelle il s'est battu, et il y a quelque chose d'individuel, c'est le fils, le frère, le père que chacun a perdu et qu'il va retrouver. Le symbole de l'Arc de Triomphe et du soldat à l'Arc de Triomphe, bien sûr, a marqué tout le siècle. Et d'ailleurs, c'est tout à fait normal. Dès 1920, dès le moment où il a été inhumé, il est devenu un lieu de pèlerinage. Il est devenu un lieu de pèlerinage pour, je dirais, chacun des individus qui croyaient des choses et qui croyaient souvent des choses contradictoires. Et de façon très intéressante, alors que pendant le débat qui a précédé l'inhumation du soldat inconnu à la Chambre des députés, les députés socialistes étaient très contre cela au nom du pacifisme. Eh bien, finalement, la tombe du soldat inconnu a été au contraire extrêmement récupérée dans les années 20 et 30 par les pacifistes. Et c'était plus pacifistes des Français ou des étrangers qui venaient sur cette tombe pour dire « plus jamais ça, nous ne ferons plus jamais la guerre ». Et puis par la suite, après la Seconde Guerre mondiale en particulier, c'est redevenu un lieu du patriotisme et qui en particulier fait, et le fait jusqu'à aujourd'hui, énormément de cérémonies auprès du soldat inconnu, symbolique, il est de la Première Guerre, bien sûr, eh bien, ce sont par exemple les anciens résistants. Les organisations de résistants ont tous, un jour, où ils viennent, vers le soldat inconnu. Et ça, c'est au nom du patriotisme.
Nous sommes dans une guérite, une petite guitoune, installée dans un des piliers de l'Arc de Triomphe, en compagnie de Monsieur Mitre. Monsieur Mitre, ancien combattant, c'était à son tour, ce jour-là, de raviver la flamme. On parle du ravivage de la flamme.
C'est un ravivage, je vous dis, la flamme, elle existe depuis 1923. Elle a été posée, elle a eu lieu sous l'Arc de Triomphe en 1923. Elle a été ravivée tous les soirs que Dieu fait, même pendant la guerre. même pendant l'occupation, même par le soir où les Allemands sont arrivés dans Paris en juin 40, sans désemparer, il y a une cérémonie chaque soir. Ces cérémonies sont plus ou moins importantes, selon l'importance de l'association qui ravive. Elle peut être constituée d'une dizaine d'anciens soldats, et ce qui arrive des fois pour les gens de 14-18 qui sont plus tellement nombreux. Et puis ça peut faire aussi 4-5 000 personnes, une association de prisonniers, d'AFN, de parachutistes ou autres. Il y a le temps aussi qui joue. L'hiver, pour les vieux de 14, c'est laborieux de venir. Ça vente, ça pleut ici. Il y a toutes les intempéries possibles, alors c'est parfois difficile de réunir un important groupement en hiver.
La condition pour raviver la flamme,
il faut avoir titulaire de la carte du combattant. On ne demande pas à ce que la personne soit cousue de décoration de galons ou d'étoiles. Il suffit qu'elle représente une association et que cette personne ait la carte du combattant. Sauf, en certains cas, c'est permis à certaines associations de victimes civiles. Ben, par exemple, la maréchale Leclerc ou la maréchale Delattre, qui représentent les morts pour la famille des tués, puisque l'une comme l'autre ont perdu un fils. Chacune a perdu un fils en Indochine. Elles n'ont pas la carte du combattant, mais elles ont l'honneur de raviver la flamme en raison de ce qu'elles représentent.
Témoignage de Monsieur Mitre. Arrêtons-nous un instant à l'image de l'Arc pendant l'occupation. Depuis l'été 1940, le contrôle de la place de l'Étoile est partagé entre les Allemands, les policiers français, à proximité immédiate aussi par une organisation collaborationniste, le Front de la Jeunesse. Déjà une organisation ultra. Tandis qu'à Londres...
Ici, Londres. Les Français parlent aux Français. Honneur et patrie.
En octobre 1940, les Français de Radio Londres ont reçu leur première lettre venue du continent. Ils se la passent de main en main, ainsi ils nous écoutent. Et le 10 novembre 1940, les Français parlent aux Français, tentent une expérience. Ils appellent à manifester le lendemain, anniversaire de l'armistice. Est-ce leur consigne ? Le mécontentement des jeunes communistes après le licenciement du Collège de France du professeur Langevin, ou le réflexe patriotique spontané de lycéens et d'étudiants, alors que circulent des tracts dans les établissements d'enseignement.
Étudiant de France, le 11 novembre est resté pour toi un jour de fête nationale. Malgré l'ordre des autorités opprimantes, il sera jour de recueillement. Tu n'assisteras à aucun cours, tu iras honorer le soldat inconnu à 17h30.
Nous avons donc pris notre croix de Lorraine et nous avons commencé à remonter l'avenue Victor Hugo jusqu'à l'Arc de Triomphe. Il y a une petite chose curieuse là, c'est que au fur et à mesure où on montait, au milieu de la chaussée, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de voitures, les magasins qui baissaient leurs rideaux. Quant aux passants, depuis le rond-point des Bellefeuilles jusqu'à la place de l'Étoile, il n'y a pas un passant qui nous ait fait un signe amical. Tout le monde se méfiait, tout le monde avait l'air d'avoir la trouille. Et nous, on n'était pas nombreux, on était une centaine. Ça faisait pas vraiment une manif, c'était pas un monôme, c'était une petite bande. Puis nous sommes arrivés devant la place de l'Étoile. Arrivés place de l'Étoile, nous nous sommes engagés de quelques mètres sur la place. Et à ce moment-là, depuis la gauche est arrivé un groupe de policiers français et depuis la droite est arrivé un groupe d'Allemands. À ce moment-là, c'est vrai, on a été un peu impressionnés, tellement impressionnés que je crois que s'il n'y avait pas eu la croix de Lorraine pour me retenir, je crois que je me serais assis par terre de trouille. Mais surtout que quand on a regardé derrière nous, on s'est aperçu qu'il n'y avait plus personne.
Dès 16 heures, arrivant de toutes les directions en cortège dispersé, les étudiants et lycéens convergent vers l'Étoile.
Au fur et à mesure que le temps passait, des groupes s'agglutinaient, on a eu un petit peu un sentiment de force. On a repris les pratiques que nous connaissions de manifestations étudiantes et on a sifflé les Allemands, on les a même un petit peu bousculés. Ils sont engouffrés soit dans leur voiture en essayant de partir. Et là, on a eu un sentiment de victoire. On a l'impression qu'on était les maîtres des Champs-Élysées.
Au moment où les gens des bureaux des Champs-Élysées sont sortis, là, évidemment, une impression de foule alors un peu plus importante. La police a essayé de nous repousser, mais la police le faisait vraiment très, très mollement. Et il n'y a eu de changement d'attitude que quand les militaires allemands est arrivé et a vraiment, à ce moment-là, bousculé, en écartant et bousculant d'ailleurs les flics français, car ils avaient l'impression qu'il y avait une espèce tolérance, une indifférence. Et ils ne voulaient pas que nous arrivions jusqu'au tombeau.
Témoignages successifs d'Igor de Chotten, de Pierre Lefranc, d'Alain Griotret. Peut-être, au moment du grand défilé de la libération de Paris en août 1944, quelques-uns se sont-ils souvenus, du geste de ces très jeunes gens du 11 novembre 1940, dont certains l'avaient payé cher. Autre temps, autres étudiants, du moins en apparence, 1968. Henri Weber, alors responsable du service d'ordre trotskiste de la Ligue communiste révolutionnaire, explique dans ses souvenirs de mai 1968 que le 8 de ce mois, il a volontairement réorienté vers les beaux quartiers la manifestation spontanément dirigée vers le 5e arrondissement. Il s'agissait de prouver aux bourgeois la force du mouvement étudiant. Henri Weber affirme avoir dissuadé certains participants gauchistes d'aller se faire cuire un œuf sur la flamme du soldat inconnu. Cependant, 6 jours plus tard, un député gaulliste de Nancy, Roger Souchal, prétend que le lieu a été profané. Et comme il n'est pas difficile de charger la mule la plus dénoncée à l'époque, il met en cause Daniel Cohn-Bendit. Nous sommes le 14 mai, au moment où va s'engager le débat sur une motion de censure déposée par la gauche. Roger Souchal demande au président Chaban-Delmas un rappel au règlement.
Monsieur le Président, mes chers collègues, par la déclaration de mon collègue M. Julia mercredi dernier et par des photographies que j'ai pu avoir en ma possession hier et aujourd'hui, j'ai appris et j'ai vu qu'une infime minorité d'étudiants sous la conduite de M. Cohn-Bendit ont profané la tombe du soldat inconnu. Permettez aux plus jeunes déportés de la résistance de ce Parlement de vous demander, mes chers collègues, parce que je suis convaincu que ce n'était pas la position de la quasi-unanimité des étudiants qui peut-être aujourd'hui se dressent dans certaines manifestations, permettez-moi de vous demander unanimement de vous lever et d'observer une minute de silence en hommage aux combattants de la guerre 14-18 et de ceux de 39-45 qui ont lutté contre les amis de M. Cohn-Bendit.
Messieurs, une seconde. Messieurs, une seconde, je vous prie. Une seconde. Messieurs, je constate que l'Assemblée n'est pas unanime. Je vous demande de vous rasseoir, de vous rasseoir. Écoutez-moi donc, Monsieur Mitterrand. Monsieur Mitterrand, voulez-vous m'écouter ?
Ça augure bien de la discussion de la prochaine motion de censure, s'il y en a une. 3 semaines plus tard, quand l'énergie de mai retombera et que de Gaulle reprendra l'initiative, c'est aux Champs-Élysées qu'aura lieu la grande manifestation de réaction, convoquée par ses lieutenants, et on y retrouvera quelques-uns des survivants du 11 novembre 1940, comme Pierre Lefranc ou Alain Griotret qu'on entendait tout à l'heure. Puis, ce fut le retour aux jours ordinaires.
Nous sommes postés ici tous les jours. Et notre rôle consiste à évincer les personnes indésirables sur le site et aussi de maintenir l'ordre. C'est notre mission de chaque jour.
Alors, ça veut dire qu'il y a des personnes indésirables. Qu'est-ce que vous appelez les personnes indésirables?
Ce qu'on appelle les personnes indésirables, c'est les personnes qui viennent pour mettre des graffitis sur le monument. Bon, on sait très bien que c'est interdit. Hein. Et aussi les personnes qui ne respectent pas donc le tombeau. Hein. Il faut savoir que cette flamme est toujours allumée et donc certaines personnes sont là aussi parfois pour l'éteindre ou des choses comme ça. Donc on est là pour les évincer.
Et il y a des gens qui viennent pour essayer d'éteindre la flamme,
oui, ça arrive des personnes qui... ça arrive de temps en temps, effectivement.
Et quelle est leur motivation?
Aucune, en général, c'est juste pour le plaisir.
Et est-ce qu'il y a d'autres indésirables comme ça qui, par exemple, marchent? Quels peuvent être leurs gestes, à part les graffitis et tenter d'éteindre la flamme?
Je pense que c'est juste parfois par provocation. Bon, ils savent très bien que la police est présente et que donc ils sont là juste pour attirer notre attention, je suppose.
Au monument, concrètement, qu'est-ce qu'ils font?
Qu'est-ce qu'ils font? Bah, des personnes qui essaient de piétiner sur la, donc à l'intérieur de la flamme. Là, vous voyez, il y a des des chaînes. Et ils entrent dans ces chaînes et ça, c'est totalement interdit. D'autres personnes piétinent un peu sur les bâtiments, essaient de grimper, etc. Bon, ça, ce sont des choses qui sont interdites sur ce monument.
Mais voilà. C'est quelque chose auquel vous avez à faire face souvent ou c'est oui, quand même assez rare?
Moi, je dirais c'est tous les jours. Hein. Il y a chaque jour des personnes qui sont là pour faire ce genre de démonstration. Hein.
François Mitterrand, nous sommes maintenant dans les années 1980, va faire clore la perspective par la Grande Arche de la Défense. Mais son mandat n'est pas marqué seulement par de grands travaux de construction. Voici qu'une pierre se détache de la voûte de l'Arc. Et avant les cérémonies du bicentenaire de 89, une restauration s'impose. Des entreprises de taille s'engagent dans une campagne de mécénat dont le comité est présidé par Valéry Giscard d'Estaing. L'Union sacrée est toujours à l'Arc.
On injecte dans les fondations du ciment, une sorte de ciment spéciaux qui s'infiltre bien. On contrôle la quantité, on contrôle la pression que l'on met, enfin tout ça. Et on fait des grands forages en biais dans les fondations pour injecter de ces coulis sur tous les joints des fondations. Ça, c'est une première opération. Deuxièmement, en haut, on avait noté des fissures. Alors, on a injecté une sorte de résine dans les fissures, de façon que quand on va mettre des tirants, c'est-à-dire des câbles qui resserrent, qui maintiennent au-dessus des voûtes tout le bâtiment, on ne refasse pas un mouvement inverse de ce qu'il s'est écarté. Il ne fallait pas le resserrer, sinon à bouger les pierres comme ça, ce n'est pas du béton. Il faut absolument faire très attention. Alors, deuxième opération, tirant plus injection. Et puis la troisième, ce sera de faire tout le pavage de l'esplanade. Vous avez un pavage uniquement en prolongement des voûtes, en croix, mais vous avez des parts de bris là, de chaque côté, quatre parts de bris qu'il faut absolument paver de façon que ce soit étanche et qu'on empêche l'eau de rentrer.
Alors voici les travaux tels qu'ils ont été effectués pour 1989. Sous le pavage, on a procédé aussi à des consolidations invisibles. Peu habitués aux tags, les façades de l'Arc sont, pour trois d'entre elles, en tout cas très exposées au vent et à la pluie. Mais les carrières dans lesquelles on avait puisé pour la construction n'étant souvent plus exploitées, il faut en trouver d'autres dont la pierre sache bien blanchir ou mieux jaunir. Jusqu'ici, la couleur jaune seyait bien à l'Arc de Triomphe. On va pas faire le détail des dégâts, un buste en marbre de Napoléon brisé, un autre de Louis-Philippe tagué, une maquette difficile à reconstituer, elle datait de 38, une peinture de l'apothéose de Victor Hugo. Victor Hugo a été exposé sous l'Arche en 1885, mais elle a résisté aux vandales grâce à ses vitres brisées. C'est pas un lieu où il y a beaucoup d'originaux, l'Arc de Triomphe, mais c'est un lieu originel pour la nation.